Cette vidéo est sponsorisée par Kitsu. Kitsu est une plateforme de collaboration pour studios d'animation et d'effets spéciaux. Avec Kitsu, vous pouvez communiquer facilement avec votre équipe comme si vous étiez dans la même pièce, que ce soit en tant qu'artiste pour envoyer votre travail à la fin de la journée, pour planifier et assigner les tâches si vous êtes à la supervision ou à la production, ou même pour suivre l'avancée du projet en tant que client. Kitsu vous permet de suivre les différentes versions d'un plan, de comparer plusieurs étapes en vidéo côte à côte, mais aussi d'annoter et commenter les plans fournis par l'équipe pour indiquer les corrections à faire notamment. De nombreux studios et écoles d'animation utilisent déjà Kitsu pour communiquer plus efficacement et raconter des histoires toujours plus passionnantes. Vous trouverez toutes les informations sur leur site avec le lien en description. Merci à Kitsu de soutenir mon travail et d'encourager le partage de connaissances autour des métiers de l'image et de l'animation. Salut Benoît, merci d'être là pour parler de ton travail de réalisateur et d'avoir accepté l'invitation justement, parce que c'est... On va parler de Sirocco et le Royaume des Courants d'Air. Et c'est un film que j'ai pu voir à Annecy il y a quelques temps maintenant. Et on va discuter en gros de tout ça, de comment est-ce que tu en es arrivé à le réaliser, de ce que ça implique de réaliser un long métrage d'animation et de ton, en gros, voilà, de tous ces trucs-là, quoi. Aussi de ton parcours peut-être un petit peu au début. Donc si tu peux peut-être te présenter un petit peu, justement, quelques mots sur qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver à cette réalisation.
D'abord, merci Benjamin pour cette invitation.
Avec plaisir.
Ouais, alors mon parcours, moi, ce qu'il y a d'un peu particulier dans mon parcours, c'est que je suis arrivé à un moment où l'animation a commencé à éclore aussi, de façon assez importante.
Ouais.
Moi, je voulais faire du dessin très jeune, et donc j'ai choisi l'école dans laquelle on pouvait faire le plus d'heures de dessin possible. Et je suis arrivé à l'ESAT à Roubaix,
Ouais.
pour faire un brevet technicien. C'était l'option dans laquelle il y avait le plus d'heures de dessin. Il y avait 22 heures de dessin en seconde.
Est-ce que c'était déjà du dessin, on va dire, narratif, etc.? Ou c'était plus dans le côté art
Non, pas du
appliqué,
tout.
design et tout ça? Où on
Non,
tombe
pas du
parfois sur
tout.
ton esprit.
Oui, absolument. En fait, à cette époque-là, il y avait très très peu d'écoles de dessin animé, puis surtout pas à cet âge-là. Moi, j'avais. Donc là, c'était l'équivalent de la seconde, en fait. Moi,
Oui, ok.
j'avais 14 ans. Donc, je suis arrivé là et en fait, on formait à cette époque-là dans ces écoles des techniciens essentiellement pour les métiers de la publicité et de l'impression. Et donc, on dessinait beaucoup quand même. C'était une école assez académique d'une certaine manière. Quand je suis arrivé en terminale, il y a un des profs de l'école qui a créé une section animation.
Ok, déjà trop
Et
bien parce que c'est pas
c'était.
si courant dans les
Non, c'était
lycées.
complètement fou. C'était complètement fou parce que, en fait, lui-même ne savait pas ce que c'était.
Ouais.
Et donc, il apprenait en même temps que nous. Donc, il y avait une ambiance qui était très, très particulière parce que il nous emmenait dans des studios à Paris. Notamment, je me souviens d'avoir visité un studio, je dirais peut-être des bêtises, mais c'est peut-être Bello Capi ou un truc comme ça, qui faisait Les Mondes Engloutis à l'époque.
Ok, ouais, je vois.
Ça paraît vieux. Les Mondes Engloutis, c'est une série qu'on a pu redécouvrir récemment sur le site de France Télé. Et c'était une époque assez étrange parce que, enfin, c'était un moment particulier parce que on allait aussi au cinéma voir des dessins animés, mais à l'époque, à part les Disney, il n'y avait rien en fait. Donc on a passé une année, on était 12 élèves en fait. La classe avait été scindée en deux et on était dans cette classe à faire de l'animation avec ce prof.
Ouais, donc ça restait un parcours général avec un cours, enfin un atelier d'animation, puisque c'était pas vraiment un cours de ce que je comprends. Comme tu dis, c'était on expérimente et tout, quoi.
Oui, mais comme j'étais dans une classe déjà très spécialisée, moi je faisais 22 heures de dessin animé par semaine en
Ouais,
fait,
ok.
en terminale.
Donc t'es en école d'anime plus ou moins déjà, quoi.
Ouais, c'était ça. Et alors avec plein de trous aussi quand même dans cette éducation parce que le prof apprenait en même temps que nous, donc il fallait qu'on découvre, donc on allait chercher les livres, on allait regarder les films, on apprenait comme ça. Mais il y avait quand même une ambition, il voulait qu'on arrive à faire un film ensemble, mais à l'époque c'était extrêmement difficile, il n'y avait pas de matériel informatique à l'époque, c'était pas du tout. Donc en fait, il n'y avait quasiment pas la possibilité de faire un dessin animé en tout cas. Et dans cette école, il y avait aussi, je pense que c'est ça qui avait motivé aussi ce professeur. L'année avant nous, il y avait en terminale, il y avait des étudiants qui avaient construit des décors en volume pour faire du film en marionnette. Je ne sais pas ce qui se passait dans cette école,
Ouais,
mais
il y avait un
il y avait
truc,
un
hein,
truc.
visiblement.
Il y a un truc, et donc voilà, il y a eu toute une ambiance, il y a eu cette transformation de classe, ce cours qui a été donné, et nous, on était comme des dingues, en fait, parce que c'était très nouveau. Pour nous, c'était inattendu aussi, c'était pas ce qu'on avait prévu spécialement de faire, et donc on est arrivé là, et puis ça s'est présenté, et puis on était tous très contents. Et donc, suite à ça, à l'époque, il y avait très très peu d'écoles, mais une école quand même qui était déjà réputée, c'était les Gobelins. Et moi, j'aurais pu rentrer au Gobelin, puisque du coup, j'ai presque un des seuls Français à avoir déjà fait de l'animation avant de rentrer au Gobelin. Et donc, il y avait déjà un lien entre l'école et Gobelin. On avait visité aussi nous-mêmes toute la classe, on avait été voir. Et en fait, en même temps que ces visites, donc moi, quand je suis sorti de terminale, il y a une école qui s'est créée à peu d'années près à Lyon, qui s'appelle l'école Émile Cole. Une école privée de dessin. Et dans cette école, il y avait aussi, c'était une école qui formait à trois spécialités, la bande dessinée, l'animation et l'illustration. En fait, en rentrant dans l'école, j'ai vu que le niveau était très élevé. C'était un niveau technique très, très élevé. Et là, c'était carrément autre chose parce qu'on avait 45 heures de dessin par semaine, de dessin académique, donc
C'est souvent ça
anatomie.
quand on arrive en études supérieures, on était les bons du lycée, et ensuite on devient juste normal, voire moins bon
Voilà,
que tout le monde, quoi. Ouais.
c'est exactement ça. Et donc moi, quand j'ai vu le niveau de l'école Émile Cole, je me suis dit non, mais c'est là qu'il faut venir. Et donc, quand je suis arrivé, on avait le même problème dans cette école qu'à l'ESAT, c'est-à-dire qu'il y avait un matériel informatique naissant qui était vraiment pas du tout performant pour faire de l'animation. Et donc moi, j'ai choisi de faire l'illustration à l'école Émile Cole, et je regrette pas du tout parce qu'en fait il y avait des très très grands professeurs et des grands noms de l'animation, de l'illustration, pardon. Et donc voilà. Et donc en sortant de l'école, un des professeurs de l'école, c'était Jacques-Rémy Girard, le fondateur du studio Folimage. Et là aussi, c'était le début de l'aventure de Folimage. Moi, je suis arrivé à des débuts de choses comme ça. Et donc, il recrutait des techniciens, des artistes pour monter son studio Folimage. Et donc, moi, je faisais partie du lot et j'ai fait partie quasiment du tout début de l'aventure de Folimage à quelques années près, quoi.
Donc il est venu chercher à l'école des profils qui l'intéressaient, etc. Comment ça
Ben,
s'est
comme il était
passé?
professeur, c'est très facile, il
Ah bah
repérait
oui,
les élèves
forcément,
et
oui, c'était un
il disait
vrai.
toi, toi, toi.
Ouais.
Voilà. Et donc, moi, je suis rentré dans le monde professionnel assez jeune parce que j'ai commencé tout de suite en sortant d'Émile Cole. Donc, j'avais 20 ans, en fait.
C'était sur
Puis
l'animation ou
après,
c'était plus
j'ai.
sur la partie design, concept, etc., vu que tu avais plus le côté illustration?
Ouais, moi, j'ai fait beaucoup de direction artistique.
Ok.
Décor et direction artistique, beaucoup, ouais. Et ça, bon voilà, c'est une aventure qui a duré longtemps, parce que 25 ans, puisque moi, je suis rentré au studio Folimage. Ouais, c'est ça, en 90, enfin, un peu de choses près, et puis je suis resté jusqu'en 2014.
Ok. Donc là-bas, c'est
Un bon parcours.
sur quelle production tu as travaillé, peut-être quelques trucs par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites par Folimage.
Moi, j'ai travaillé sur de la série, quand je suis arrivé. Il y avait une série qui s'appelait Ma petite planète chérie, qui était une des premières séries sur l'écologie. Et c'était chouette. J'ai beaucoup aimé travailler sur ce projet. J'aimais bien. En fait, Jacques Rémy, il avait quand même ce goût pour l'écologie très prononcé, presque militante, parfois trop. Mais en tout cas, c'était des thèmes qui étaient pas forcément abordés à l'époque. Et malheureusement, on voit que la série qu'on a fait est encore complètement d'actualité aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Et il n'y a pas tellement de relais non plus parce que en fait ça reste une série un peu isolée. Alors les problèmes d'écologie sont abordés, mais pas rarement de façon aussi frontale et aussi éducative comme c'était le cas dans cette série. Et moi j'ai bien aimé. Il y avait aussi beaucoup de fantaisie et j'ai rencontré à ce moment-là Damien Louche-Pélissier avec qui j'ai travaillé pendant une longue période à Folimage jusqu'à la réalisation de Patate et le jardin potager où on a réalisé le film à deux.
Ok, donc première
Ouais,
expérience
c'est un
de
long.
réalisation à ce moment-là.
Ouais. Et donc, en fait, il y a eu un peu deux temps. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai fait de la série, puis j'ai gravi un peu tous les échelons jusqu'à la réalisation de Patate en 2000.
Et ça, juste
Nuance.
pour faire un petit point là-dessus, comment c'est arrivé ce truc-là de... Est-ce que tu veux réaliser le film? On t'a demandé, t'as proposé, enfin, comment ça se passe ce truc de devenir réalisateur? J'imagine qu'il y a beaucoup de ça s'est passé comme ça, sans forcément qu'il y ait d'explication très claire à chaque fois, mais bon.
Non, c'était non, y a pas, il y avait une, y a une explication. On fait pas un film par hasard.
Non, mais je veux dire, le côté, c'est pas forcément un truc qu'on cherche, c'est ça que je veux dire. C'est, on a un rôle dans une production, et de ce que je comprends, parfois, c'est juste, ben tiens, t'as fait la direction artistique, est-ce que ça te dit de... Et ensuite, on s'attendait pas forcément, mais on se retrouve à dire oui à un projet plus grand, quoi. C'est plus ça que je
Non,
voulais dire.
c'était pas le cas. Là, je me
Ok.
suis vraiment battu. On s'est battu avec Damien pour faire ce 26 minutes.
Ok.
Et c'était pas forcément simple non plus parce que c'était quand même un gros projet pour un petit studio de faire un spécial télé comme ça, de façon indépendante. C'est aussi une prise de risque pour un studio. Et puis Jacques Rémy, c'était quelqu'un aussi qui prenait beaucoup de place et qui a énormément de talent, mais avec qui il fallait aussi parfois s'imposer. Et donc je me suis imposé avec Damien pour faire ce film-là. On avait très envie de le faire et on a été soutenus en interne. Il n'y a pas eu de conflit ni quoi que ce soit, mais c'était pas, on m'a pas dit, bah tiens, tu vas faire un film.
Ouais.
C'était plutôt quand même une demande active de notre part.
Donc c'était une histoire à vous deux alors. C'était quelque chose que vous aviez
Oui,
vraiment à cœur. Ok, c'est ça,
absolument.
parce que je sais que parfois c'est d'autres des histoires autres et ensuite on choisit la personne à la réalisation. C'est plus pour ça que j'ai posé la
Non, non,
question.
non, là, non, non, là, on avait vraiment fait ce choix à deux de faire ce film. Et ensuite, après, il y a eu quand même, à la fin de ce 26, Damien, lui, il a quitté le studio. Moi, je suis parti pendant 2, 3 ans faire un peu ma vie à côté. J'avais aussi un peu marre de travailler en studio et ça a été très difficile. J'ai écrit une série que personne ne connaît, qui a totalement disparu, sur lequel on trouve aucune
Ouais.
trace, et qui s'appelle Mika. Et c'était une série en 3D où là encore une fois, j'étais au début d'un truc parce que c'était le début de la série en images de synthèse. Et à l'époque, il y avait très peu de choses. C'était les premières séries. Alors, effectivement, il y a des vieilles séries en 3D en France qui sont historiques, mais quand même, là, on était au début de l'ère informatique en 3D, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de studios en France capables de faire ça. Et il y avait une série dont j'ai oublié le nom, enfin bref. Et il y avait un studio Angoulême qui faisait ça. Enfin, c'était compliqué à monter. Enfin, ça a été très difficile, ce projet. Et ça a été fabriqué en Inde. Et moi, quand j'ai vu les conditions de fabrication, j'ai dit au revoir. Ça m'a totalement dépassé. Et j'avais pas du tout envie de partir en Inde pour faire de la série. Et donc, Jacques Rémy, qui lui continuait son aventure avec Folimage, il était parti vers le long métrage. Et donc, à ce moment-là, je lui ai dit, bah, écoute, moi, je veux bien revenir travailler sur des projets ambitieux comme cela. Et ça l'intéressait. Donc, on a travaillé sur deux projets sur lesquels j'ai fait la direction artistique et les storyboards. C'est Mia Almigou et Tantilda.
Oui, je
Et
vois.
donc, à la fin de Tantilda, moi, là, pour le coup, j'ai arrêté de travailler au studio Folimage de façon régulière. Et c'est là que j'ai commencé une carrière d'auteur en tant que réalisateur indépendant. Ouais.
Ok, donc là on a fait un tour assez, assez comment dire, survolé de tous les trucs que tu as fait, mais on voit que voilà, tu as fait énormément de choses différentes. Et justement, pour en arriver à Sirocco, comment ça s'est passé? Déjà, est-ce que c'est un projet personnel, etc. Parce que, tu l'as écrit également, enfin co-écrit. Donc, comment ça s'est passé ce truc-là, en fait, de l'idée de départ, même avant de parler d'où on va le monter, etc.
Alors, l'idée de départ, il y avait, comme souvent chez moi, j'ai besoin de voir des images. Moi, j'ai besoin de dessiner, j'ai besoin d'imaginer des choses. Je ne peux pas, ça passe pas forcément toujours par l'écrit, principalement par le dessin, ça passe chez moi. Et en fait, un des points de départ, il y avait deux choses. Il y a déjà un visuel, parce qu'après Tantilda, j'ai quand même fait pas mal de projets, et donc je voulais faire un film visuellement très simple. C'était mon ambition. Et parce que sur Tantilda, les décors étaient quand même relativement complexes. Et même si c'est du dessin, il fallait gérer des problèmes techniques assez importants. Et je me suis dit, je vais faire un film le plus simple possible techniquement.
Ouais.
Et donc, Mon idée, c'était de faire des aplats, des traits, des aplats, quoi. C'était vraiment la ligne claire à la teinte, hein, quoi. Mais aussi pour les décors, c'est-à-dire complètement partout. Et sans ombre propre, sans ombre portée, ce qui est un choix artistique assez radical quand même. Il n'y a pas beaucoup de films qui font ça. Et en long métrage, à ma connaissance, il n'y en a quasiment aucun. Je connais L'enfant invisible de quelqu'un qui s'appelle Martin, je ne sais plus.
Je pourrais retrouver,
Chercher
je
L'enfant
mettrai le nom.
invisible, très beau long métrage, un film indépendant, mais en fait, il y a très peu d'exemples de long métrage complet avec un visuel aussi simple. Et ça m'intéressait, donc évidemment, pour des raisons de fabrication, parce que ça permet d'aller vite et de se concentrer sur des choses essentielles. Et d'autre part, ça m'intéressait parce que généralement, si on regarde l'animation, les décors sont souvent très sophistiqués et les personnages très simples.
Ouais, c'est ça. Il y a pas d'ombre sur les persos, mais les décors, c'est
Non.
peint à la main, c'est fou
Ouais.
et tout. Ouais.
Donc on compense la simplicité du personnage par une richesse des décors. Parce qu'on a toujours peur que ce soit vide. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est justement d'avoir un décor dans lequel, techniquement, il n'y a aucune différence avec les personnages. Parce que du coup, en faisant ça veut dire que tu peux potentiellement animer ton décor comme un personnage.
Ouais, aussi, ouais.
Et on l'a peu fait sur Sirocco, mais c'est une vérité. C'est-à-dire que tu peux prendre n'importe quelle partie du décor et l'animer. Et ça, c'est un avantage énorme. C'est super. Donc là, j'ai découvert quand même un truc qui m'intéresse encore maintenant beaucoup, que j'aimerais continuer à explorer, parce que ça veut dire que tu as un contrôle de l'image à 100%. C'est-à-dire que tu contrôles toutes les parties de l'image.
Ben c'est ça
Donc
parce
ça,
que
c'était...
tu disais qu'il y a le côté problèmes techniques qui peuvent arriver avec d'autres choses plus complexes. Et j'imagine qu'il y a aussi des problèmes techniques avec des choses plus simples. Mais c'est à quel point la direction artistique et la technique vont être un peu liées, quoi. On peut faire des choses plus simples pour que ce soit plus facile, mais en même temps, artistiquement, ça dit quelque chose et tout. Enfin, les deux se balancent un peu, je trouve.
Oui, mais oui, pour aller dans ton sens, si tu veux faire simple, c'est difficile, hein. Donc c'est ce que j'ai découvert en fabriquant le film, c'est-à-dire que moi qui croyais que j'allais résoudre tous mes problèmes en faisant ce choix-là, en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé,
Ouais.
parce qu'en fait, quand t'as plus beaucoup d'informations, chaque information est très importante. C'est un peu le problème de Tintin, c'est-à-dire que si tu décales les yeux tout de suite, il ressemble plus du tout à Tintin. Et donc, Sirocco, c'était le même problème, c'est-à-dire qu'il fallait être extrêmement précis sur le dessin parce que chaque ligne était visible. Donc, ça a posé d'autres problèmes qui n'étaient pas vraiment un problème technique, informatique, mais un problème purement de dessin, quoi. Et donc, ça, c'était lourd à gérer. Mais techniquement, ça a quand même marché parce que les décors étaient très simples à faire. On pouvait faire dans des séquences plus faciles, on peut faire 8-10 décors par jour pour un long métrage, ce qui est énorme. Donc c'était que ça a marché quand même. Et après, le deuxième point qui moi m'intéressait, c'était le sujet. Le sujet, je voulais parler du vent pour une double raison là aussi, c'est que le vent, c'est un sujet très intéressant d'un point de vue cinématographique. Déjà parce que le vent, c'est quelque chose qui est invisible, et donc de montrer l'invisible au cinéma, c'est toujours quelque chose de passionnant. C'est une question qui continue à m'intéresser beaucoup, que j'aimerais encore là aussi explorer et continuer à creuser. Et le vent, c'est aussi le mouvement, parce que on peut pas représenter le vent sans faire une porte qui claque, sans faire des cheveux qui volent, sans faire des vêtements qui flottent, etc. Donc d'un point de vue animation, mouvement, c'est très très stimulant. Très stimulant. Et comme j'avais fait ce choix de cette possibilité qui me permettait, sur les décors, de pouvoir animer toutes les parties, donc évidemment, on pouvait aussi à tout moment animer la totalité du décor, comme ça l'a été fait dans certains plans où tout le décor est animé.
Oui, c'est ça, alors que des
Et
décors plus
pour
complexes,
représenter
c'est
le
plus
vent, voilà.
figé. Ouais.
Et donc ça, c'était, c'est ça, ça, ça a très bien marché. Donc voilà, c'était ces deux choses, à la fois ce visuel très simple et ce thème qui me semblait intéressant à creuser.
Et donc, qu'est-ce que tu as au départ? Alors, tu disais que tu avais des dessins, mais c'est justement des. Tu fais plein de différents décors. Est-ce que tu fais déjà des sortes de pré-storyboard, de scènes que tu as en tête? Comment est-ce que ça se construit ce premier bloc qui ensuite peut être présenté pour construire quelque chose de plus grand?
Ça passe par des personnages, par des ambiances, par des décors. Ouais, je dessine ce qui me passe par la tête. J'essaye surtout à chaque fois de mettre en image des choses fortes qui moi m'interpellent ou voilà, c'est assez intuitif. C'est difficile d'en parler comme ça parce que c'est il y a un côté un peu nébuleux quoi. Tu laisses déborder les images qui te viennent. Et en faisant ça, au bout d'un moment, tu as comme un fil qui se crée, je ne sais pas comment dire. C'est comme au début, tu as une espèce de ruisseau qui se forme, un filet d'eau, puis qui devient un ruisseau, puis qui devient un fleuve. Mais y a quelque chose comme ça qui n'est pas forcément conscient ou intellectuel au début, et puis peu à peu qui commence à se former, où on voit un monde qui se crée. Et puis évidemment, après. Le travail avec Alain Gagnol, qui a été aussi très important, qui lui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait des dessins sur ce thème du vent sans queue ni tête, qui représentait parfois des personnages. J'avais une idée comme ça de grandes lignes, mais rien de construit. Et Alain Gagnol, là où il a été très fort, c'est qu'il a pris ses pièces de puzzle et il a rajouté les pièces manquantes. Et donc, il a vraiment créé un scénario à partir des dessins que j'avais faits. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a. C'est quelqu'un qui est très visuel. C'est pas simplement un écrivain. Il est auteur de romans, mais c'est aussi un réalisateur. Et donc, c'était très agréable pour moi de voir qu'il se projetait dans des situations visuelles. Et moi, j'avais absolument besoin de ça. Et donc, il a vraiment puisé son écriture dans ses dessins qu'il a structuré, sur lequel il a vraiment construit un scénario.
Oui, c'est ça, parce qu'au départ, toi, t'avais juste des scènes, quelques trucs par-ci par-là, quoi. Enfin, vraiment,
C'est
une
ça.
ambiance générale, quoi. Et ensuite, écrire, c'est
C'est ça.
encore une autre approche
C'est
et tout.
ça.
C'est parfois ce qui peut nous manquer, parce qu'en tout
C'est
cas, les
ça.
gens qui ont plein d'idées, enfin, j'imagine que tout le monde se dit, tout est possible, je vais dessiner plein de trucs et puis ça va le faire. Mais la structure, c'est un truc vraiment, super important dans le film. Et je sais pas à quel point c'était compliqué, par exemple, de trouver cette trame-là qui finalement est assez simple, mais qui doit se tenir tout le long, etc. Parce qu'il y a une histoire qui est aussi assez simple dans le film, en plus du visuel. Donc comment ça s'est construit vraiment le côté narration, quoi. D'abord une histoire, ensuite le scénario, enfin.
Alors déjà, cette simplicité, elle était très importante parce que comme moi, je voulais faire un film avec un univers fantastique, Alain, il a tout de suite dit, mais on va pas faire une histoire trop compliquée parce que les deux vont être difficiles d'accès et ça va poser problème. Donc il a volontairement fait le choix d'aborder une histoire assez simple, qui est pas si simple que ça quand même,
Oui,
Mais il y a
c'est.
quand même une trame narrative qui est relativement classique. On retrouve, c'est celle de Alice au Pays des Merveilles, etc. On suit un personnage avec un changement de monde, etc. Et donc ça répond à des codes qui sont connus. On n'a pas réinventé le monde avec ce film.
Oui, de toute
Mais
façon,
par
niveau
contre, c'était.
histoire, il n'y a pas besoin de réinventer, il faut juste que quelque chose se tienne bien. Ce qui est dur, c'est de le
Voilà.
construire correctement, quoi. Ouais.
C'est ça. C'était surtout ça qui était très important, c'est de rendre cette histoire la plus limpide et la plus cohérente possible, justement pour que le spectateur, les jeunes spectateurs, puissent s'y retrouver. Et donc, c'était notre axe. Et il y avait un deuxième point qui a été très important pour nous, c'est que moi j'avais travaillé longtemps avec Jacques Rémy, qui est quelqu'un qui ne dessine pas. Et donc, il s'empare du scénario à travers notamment les dialogues. Et donc, il fait des films très dialogués. Et ça, moi, je sortais de Tantilda où l'écriture, c'était, je crois que le scénario, la première version faisait 120 pages. Alors, 120 pages de dialogue à mettre en scène, c'est un enfer.
Oui, j'imagine à peine.
C'est un enfer pour une raison très simple, c'est que ça conditionne à fond la mise en scène. C'est-à-dire que si tu as des dialogues tout le temps, tu es obligé de montrer des gens qui parlent.
Oui.
Et alors, moi, ça m'emmerdait vraiment. Une fois sorti de Tantilda, j'ai dit plus jamais ça. Je veux pas faire ça du tout, en fait. Moi, je veux qu'il y ait des grands silences pour justement que je puisse faire des images qui me semblent importantes, qui ne sont pas forcément des images qui ont du sens narrativement, mais qui permettent de faire des pauses, des temps calmes dans lesquels on raconte autre chose que simplement l'histoire. Et donc, avec Alain, on était tout à fait d'accord là-dessus. Et le scénario de Sirocco, il fait 60 pages. Donc, il est deux fois plus court que celui de Tantilda. Et il y a relativement peu de dialogue. C'est pas un film très bavard. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ça parce que, justement, j'avais la place pour faire une mise en scène dans laquelle j'avais pas forcément, par exemple, j'avais des morceaux de scénario sur lesquels il y avait peu d'indications. Et moi, j'ai brodé où j'ai développé des parties qui n'étaient pas forcément scénarisées ou peu scénarisées.
Oui, donc
Et
avec du
il y a
storyboard,
d'autres moments,
etc.,
ce n'est
quoi.
pas le cas. D'autres moments, je me suis vraiment collé au dialogue, mais j'avais la place pour déborder comme ça. Ça, c'était super. Et moi, j'étais très, très content de ça.
Et d'ailleurs, j'ai pas demandé, mais vous vous connaissiez d'avant d'autres projets ou quoi? Je sais pas si tu l'as dit.
Oui, c'est important de le dire. En fait, Alain Gagneul, comme je racontais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui était élève à Émile Cohl. En fait, il était 2 années au-dessus de moi. Et en fait, il est arrivé un peu avant moi à Folimage. Alors lui, pour le coup, tout début. Et en fait, on se connaît depuis très, très longtemps, en fait. Mais Alain, il a un univers qui est un univers. Au début, il a développé plutôt un univers pour adultes avec des séries noires. C'est un romancier de polar principalement. C'est quelque chose qu'il aime bien. Et il y a une noirceur dans son écriture qui, moi, m'effrayait. Je tenais pas forcément à faire un film noir, même pas du tout. En fait, je voulais faire un film d'aventure joyeux, coloré,
Oui.
accessible. Et au tout début, donc quand on a parlé de cette collaboration, moi j'étais un peu réticent parce que je me disais, mais est-ce que Alain va réussir à rentrer dans ma tête, dans
Oui.
cet univers un peu farfelu? Et il s'est avéré qu'il a complètement joué le jeu. Moi j'étais très très surpris de ça parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il rentre aussi facilement dans cet univers. Je me souviens qu'il y a eu une petite phase d'ajustement au tout début parce que quand il écrivait le scénario, il écrivait des scènes qui se passaient à l'intérieur des maisons, etc. Et très vite, je lui dis, mais non, 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 surtout pas, toutes les scènes doivent se passer dehors. Donc, si tu veux écrire quelque chose, il faut que ce soit dehors. Et donc, il était très surpris et il a très vite compris. Après, c'est vraiment, une fois qu'il avait saisi le truc, c'était parti et ça marchait. Et donc, voilà, après l'écriture, pour revenir à ta question sur l'écriture, évidemment, ça n'a pas été un long fleuve tranquille parce que l'histoire, elle est centrifuge, c'est-à-dire qu'il y a un point dans l'histoire assez simple, c'est il faut qu'on retrouve Sirocco pour pouvoir rentrer chez soi, donc on fait un voyage. Mais si ça, c'est la ligne conductrice, il y a plein de choses autour qui se développent dans l'univers avec les personnages secondaires, etc. Et donc, il fallait à chaque fois trouver une trame simple et limpide pour que chacun s'y retrouve sans perdre ce fil rouge du début jusqu'à la fin, quoi.
Oui, c'est
Donc voilà, il y
ça.
a eu des allers-retours, il y a eu des discussions, il y a eu aussi un rebondissement dans le scénario, puisque il y a une chose importante, sans dévoiler le film, il y a une relation très importante entre deux sœurs adultes qui est développée dans l'histoire. Qui fait écho aux deux sœurs qui sont enfants. Et donc, il y a une espèce de duo comme ça, jeune adulte qui se répond. Et ce duo adulte, il n'existait pas au tout départ. Il était absent. Enfin, ça faisait pas partie du scénario. Et donc, quand Alain a décidé qu'il y ait deux sœurs adultes, alors là, ça a changé vraiment l'histoire. Et
Ouais.
on a dû rebattre un peu les cartes et remettre un peu d'ordre dans toutes nos idées, quoi.
Oui, c'est ça, il y a une. Enfin, je sais pas en combien de temps ça a été écrit, mais il y a une nécessité d'un comment dire ça, d'un décantage, on va dire, des idées aussi. Il faut forcément qu'il y ait, même si c'est pas forcément méga long, ça dépend des scénarios, mais avoir le temps de se demander si les choses fonctionnent et tout ça, il y a forcément une partie plus lente. Et je ne sais pas combien de temps ça vous a pris justement pour l'instant là. Est-ce que vous travaillez sur d'autres trucs? Est-ce que vous êtes là-dessus complètement? Comment ça fonctionne avant qu'il y ait justement une équipe, etc., quoi? C'est là-dessus où pour moi c'est un peu
Alors,
flou justement.
c'est une bonne question parce qu'en fait, effectivement, il y a un très long temps de développement, surtout que ça a été un film difficile à financer, donc la recherche de financement a été très très longue. Et donc, il y a eu deux temps. Il y a eu un temps de développement qui a été très long, qui s'est étalé, on va dire, entre 2014 et 2021. Ce premier temps, effectivement, il faut faire autre chose. En fait, moi, avant de commencer Sirocco, pour y arriver, j'ai fait trois courts-métrages, en fait. Parce que j'ai rencontré Ron, on a dit on fait ce film, et bien en fait ça a tellement pris de temps qu'entre-temps, bah, j'ai fait d'autres films, parce que c'était trop long et il fallait bien vivre en fait. Donc j'ai écrit d'autres courts-métrages et j'ai fait ça. J'ai des petits boulots à droite à gauche, enfin voilà, on navigue comme on peut. Et donc ça, ce temps de développement a été très long, c'est inhérent au projet de long-métrage. Il y a un temps de maturation qui est de façon assez difficile. Bon là, c'était particulièrement long, mais en gros, en général, si on regarde les premiers longs-métrages en France d'animation, c'est souvent une dizaine d'années, hein.
Oui, c'est ça, parce
C'est
qu'on a souvent le côté, bah, la production dure tant de temps. Mais
C'est
derrière,
ça.
y a d'autres choses. Et justement, là-dessus, je pense qu'on a peut-être pas trop conscience du fait que c'est des temps très longs, qu'il faut
C'est
forcément faire
ça.
d'autres trucs pendant ce temps-là. C'est des projets qu'on peut avoir dans un tiroir, ressortir, etc. Et que c'est comme
C'est
ça
ça,
pour tout le
exactement.
monde, finalement. Je trouve que c'est important de le
Oui,
savoir, même
oui.
quand on est en étude ou quoi, que ce sera comme ça souvent, quoi, même tout le temps, je pense.
Oui, c'est absolument vrai. Il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier parce que, il peut y avoir plein d'aléatoires et un projet peut mettre du temps à se développer. Donc, il faut avoir plusieurs choses dans la tête parce que tout se passe pas comme on a prévu. Et alors, le deuxième temps qui, lui, a été beaucoup plus court, c'était le temps de la fabrication parce que la fabrication, on a commencé en septembre 2021, on a fini en juin 2023, cette année.
Ouais, ce
Donc, on
qui.
a mis 1 an et demi de fabrication, ce qui est très court
Ben
pour un
ouais,
long métrage.
c'est sûr.
Là, c'est assez délirant parce que tu attends pendant des années et le jour où ça commence, c'est de marathon hallucinant.
Ouais.
On se dit, mais pourquoi on n'a pas démarré plus tôt? On n'arrive pas bien à comprendre quand on est dedans pourquoi on attend et pourquoi une fois qu'on est dedans, on doit courir, quoi. Donc,
Oui, c'est vrai que
c'est un peu.
je m'étais jamais fait la réflexion de c'est beaucoup d'attente et ensuite on court, quoi. C'est vrai.
Ouais.
Et donc tu disais
Et 1 an et demi
que.
de fabrication pour un long métrage comme ça, c'est très court. Moi, je suis entouré de personnes qui mettent 1 an et demi à faire des courts métrages, mais un long métrage, c'est l'équivalent, je sais pas moi, d'une petite dizaine de courts métrages. Donc, en 1 an de temps,
Ouais.
c'est extrêmement ramassé, quoi.
Et à ce moment-là, donc au moment où la fabrication commence, on compte la pré-production, le développement visuel complet, etc. dedans, ou c'est vraiment la fabrication des choses, on va dire, l'animation, etc. Est-ce que la pré-prod est à l'intérieur de ce temps ramassé?
Là, je parle vraiment de la production, c'est-à-dire la
Ouais.
pré-production, post-production. En fait, la pré-production, elle est diffuse parce que il y a l'écriture, il y a la... je mets pas dedans, par exemple, l'animatique. L'animatique, j'ai mis 1 an et demi à le faire. J'ai fait ce travail seul et je l'ai fait sur un temps étalé qui s'est étalé sur 2 ans, mais concrètement, j'ai mis 1 an et demi. Donc, il faut. Moi, j'ai déjà fait. C'est la troisième fois que je fais le storyboard complet d'un long métrage puisque je l'avais déjà fait sur Yael Migou et sur Tantilda. Et maintenant, je vois que pour faire un storyboard complet, il faut 1 année. C'est-à-dire que quand on est seul, il faut 1 année pour storyboarder entièrement le film. Surtout des films comme Sirocco, qui sont des films quand même très complexes avec
Ouais.
mouvement de caméra, une mise en scène assez sophistiquée. Donc, c'est long. Et ensuite, il y a 6 mois de maturation où là, il faut montrer son travail, il faut écouter les uns les autres. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir à côté de moi quelqu'un très précieux qui est Titouan Bordeaux, qui est quelqu'un avec qui je travaille depuis un certain nombre d'années et qui a été aussi assistant réalisateur sur Sirocco et qui est quelqu'un de très précieux parce que il est très exigeant et il a une espèce à la fois de recul sur le travail qu'on est en train de faire et en même temps, il est dedans, quoi. Donc, c'est important d'être entouré de personnes en qui on a confiance, qui ont à peu près la même vision vous du cinéma et qui soient capables d'apporter un certain recul sur le travail que vous faites, parce que quand on a le nez dedans, ça c'est extrêmement difficile de
Ouais.
savoir si ce qu'on fait est pertinent ou pas du tout.
D'ailleurs, il y aura une autre vidéo avec Titouan justement qui sort
Ah
avant
bah
ou après
super.
celle-ci, mais on pourra développer
Merci.
toute cette partie de son
Ah,
travail
il a fait
là-dessus.
un travail, bon, on peut en parler un tout petit peu, mais il a
Ouais.
fait un travail fabuleux justement parce que il a eu ce rôle que moi je trouve très très précieux de recul en fait à chaque fois je lui posais la question et ça qu'est-ce que t'en penses et ça qu'est-ce que t'en penses parce que et puis voilà ça a permis pas mal de moments d'ajuster des détails alors c'est pas forcément sur l'ensemble mais c'est plein plein de petits détails qui fait que le film a gardé une certaine fraîcheur une originalité puis surtout une pertinence parce que le problème c'est de rester simple dans la narration et accessible. Et donc, à chaque fois, il me disait, non, mais là, tu vois, ça, on comprend pas vraiment, donc on travaille. Et donc, il y a eu donc évidemment Titouan, mais il y a aussi, par exemple, une monteuse qui a peu travaillé sur le film, parce qu'on a fait peu de montage sur ce film, j'ai beaucoup travaillé sur l'animatique.
Oui.
Mais Céline Kelly-Pickis, qui a fait le montage de La Tortue Rouge, qui est une fille extraordinaire et qui a aussi apporté un recul sur la narration et qui a amené du sens et qui a resserré les boulons. Et donc du coup, voilà, ces personnes sont très importantes parce que c'est à ce moment-là que le film prend sens en fait, vraiment. Et puis il prend son rythme aussi. Donc voilà. Et puis Titouan, c'est un homme, c'est un couteau suisse, sait tout faire. Il est merveilleux
Ouais.
parce que il est pratique à plein d'endroits. Il connaît bien les logiciels. C'est un excellent dessinateur. Et donc On avait vraiment les mains dans le cambouis tous les deux avec lui parce que c'est un film, comme on était très très pressé par le temps, il y a beaucoup de moments où on a dû faire le travail nous-mêmes et prendre les choses en main parce qu'on n'avait pas le temps de le faire corriger, donc il fallait qu'on corrige nous. Et donc là, il fallait être dedans, quoi. Il fallait faire les choses nous-mêmes. Donc là, c'était précieux d'avoir quelqu'un à côté de moi qui dessine bien et qui me dise, bah, non, ça, je m'en occupe, tu le fais pas, je le fais. Et c'était parfaitement bien fait, donc c'était super.
Et donc tu dis que ça a été fait assez rapidement pour la production. C'est j'imagine aussi une question de financement, de qu'est-ce qu'on peut caler comme travail dans ce budget-là. Ou peut-être sans forcément aller dans les détails, etc. Je ne sais pas à quel point on en parle, mais tu disais que c'était un peu difficile, que ça a été difficile à monter. Comment ça se passe? Parce qu'on en a déjà parlé un peu dans d'autres vidéos, le côté il y a différentes régions qui participent selon là où sont les studios, etc. Il y a tout ce truc de montage financier. Est-ce que tu peux peut-être dire quelques mots là-dessus? Peut-être quel est le budget d'un film comme celui-là ou des choses comme ça, dans les grandes lignes?
Ouais, alors c'est des questions auxquelles il est parfois difficile de répondre et c'est pas tellement à moi d'en parler parce que c'est plus à un producteur de parler de ça.
Ouais,
Moi,
c'est pour ça
je
que
suis
j'ai juste dans les
pas
grandes
mal
lignes si tu veux en parler, parce qu'on
à
est
ma
plus là pour
place
parler de la
pour
partie
vraiment faire des
création.
vidéos. Mais dans les grandes lignes, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, le financement, il est essentiellement amené par les chaînes de télévision, le CNC et les régions. Ça, c'est les gros participants en fait d'un projet. Et sur un film, donc c'est un peu les trois grands financements, c'est-à-dire CNC, chaîne de télé et région. Après, il y a plein de détails.
Oui,
Là
voilà.
aussi, c'est pas à moi vraiment d'en parler, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Et pour Sirocco, on a quasiment eu aucune aide du CNC et on n'a pas eu de chaîne de télévision. Ce qui fait que sur les trois grands pôles financeurs d'un long métrage, il nous restait un région. Donc ça a été compliqué parce que évidemment on n'a pas trouvé le budget initial qu'on s'était fixé, qui aurait été un budget qui me paraissait en tout cas cohérent avec le projet qu'on avait en tête. Et donc voilà, donc évidemment c'est le problème est là, c'est-à-dire qu'une fois que t'as pas du tout la somme que tu avais imaginée, qu'est-ce que tu fais en fait? Le problème qu'on a eu nous, c'est que c'était trop tard en fait. Si je l'avais su plus tôt, j'aurais adapté la mise en scène, parce qu'il y a toujours moyen de faire
Ouais.
simple. On peut toujours faire simple.
À
Genre enlever des
l'animatique et de
plans, toujours
réarranger, voilà.
simplifier l'animation. Moi, je crois que je suis capable de faire ça. C'est pas vraiment un problème. Mais le truc, c'est que le storyboard était fait, l'histoire était écrite, le projet était lancé.
Ouais.
Et en fait, une fois qu'il est lancé, que tous les gens sont là, on a recruté les équipes et qu'on te dit, bah non, en fait, est-ce que le film que tu as imaginé, bah, tu ne peux pas le faire comme tu avais envie. Bah, qu'est-ce que tu fais? En fait, là, c'est trop tard. Donc, en fait, c'est là où ça a été difficile. C'est qu'on avait lancé une machine qui nous dépassait, en fait. Et donc, là, il a fallu bosser et chacun a donné du sien. Là. Je dois remercier tous les participants de Sirocco, que ce soit les animateurs, enfin, tout le monde, enfin, tous les studios ont joué le jeu. Vraiment, tout le monde a donné du meilleur qu'il pouvait. Et heureusement, enfin. Et voilà, et moi-même aussi, je me suis beaucoup investi, c'est normal, mais les équipes vraiment ont beaucoup, beaucoup travaillé. Et franchement, moi, je suis fier du résultat. C'est-à-dire que même quand je le vois maintenant, je me dis, ouais, c'est un film très exigeant et qui tient. Enfin, je veux dire, on n'a pas fait de compromis, en fait.
Ah oui, quand on voit
On a
le
trouvé
film,
des astuces.
quand on voit le film, on se pose absolument pas la question
Ouais.
de budget ou je ne sais quoi. On est dans le truc et
Ouais.
tout ça. Ouais. Et
Ouais, je suis fier de ça parce que, en fait, je pense que le film ne donne pas du tout une idée juste d'ailleurs du budget réel, en fait, parce
ouais.
que c'est un film qui est bien plus ambitieux que dans son résultat que le budget qu'on avait. En fait, quand on met en parallèle les deux, il y a un truc qui ne marche pas.
Ouais.
Ça veut forcément dire qu'il y a des gens qui ont donné du leur pour y arriver parce que avec le budget qu'on avait, on ne pouvait pas faire ce film normalement.
Ok, et justement au niveau de l'animation, est-ce qu'on peut peut-être parler un peu des choix qui ont été faits sur le style d'animation, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a aussi ce côté, comme tu disais, technique qui rentre en jeu dans la façon dont il y a eu des décisions pour superviser l'animation, même si je sais que c'est le rôle de quelqu'un d'autre, forcément. Comment ça s'est passé là-dessus, les choix d'anime?
Alors, Là, moi, j'ai fait appel à quelqu'un que je connais très bien, c'est Suzanne Seidel, qui a été directrice de l'animation sur Sirocco, avec qui j'ai travaillé déjà aussi sur Tantida. Elle est arrivée en France pour travailler sur Miel Migou, donc je la connais très bien. On a une grande complicité, donc c'était assez simple pour moi de travailler avec elle parce qu'elle connaît
Oui.
mes exigences et surtout elle sait où enfin, comment dire. Il y a des choses particulièrement qui m'intéressent plus que d'autres. Je suis pas animateur, moi, dans l'âme. Je suis pas quelqu'un qui suis derrière l'animation. Par contre, j'accorde beaucoup, beaucoup d'importance à la mise en scène. Et donc, j'ai beaucoup de discussions avec Suzanne à ce sujet. Elle me connaît. Elle connaissait aussi le budget, le temps qu'on avait, etc. Et donc, les choix qu'on a faits concernant l'animation, c'est qu'on n'a pas, on a pas animé à 12 images par seconde, on a animé à moins,
Oui.
mais pas de façon systématique. C'est-à-dire qu'il y a des plans qui sont animés à 24 images par seconde, il y a des plans qui sont animés à 12 et il y a des plans qui sont animés à 8. Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'on a
Oui.
adapté les problèmes d'animation en fonction du plan. Et le choix, ça a toujours été de dire qu'est-ce qui est important pour ce plan? Alors moi, j'aime pas non plus l'animation pour de l'animation, c'est-à-dire que pour moi, un personnage qui bouge alors qu'il n'a pas besoin de bouger,
Ça
ça n'a
dit
pas de
quelque chose,
sens.
ouais.
Et surtout, ça crée de la confusion pour moi. Ça crée du mouvement où on n'en a pas besoin. Je trouve que le mouvement, il doit être placé au bon endroit. Et quand on regarde, si on par exemple on regarde en accéléré la vidéo, cette vidéo sur laquelle on est en train de parler, en fait on bouge quasiment pas, on bouge très très peu quand on parle.
Ouais, en
Il y a des gens qui
animation, il
parlent
n'y aurait
avec
pas
les mains,
grand-chose, hein. Surtout sur
mais
moi.
voilà, on peut parler un peu avec les mains, moi je bouge un petit peu, mais sinon on bouge très très peu. Donc en fait la question, elle a été là, c'est de se dire dans des plans où les personnages parlent, qu'est-ce qu'on anime et de quoi on a besoin réellement pour que le sens passe. Et en faisant ce travail, alors moi je connais bien Suzanne, on connaît les écueils de l'animation et des animateurs, des animatrices qui travaillent, qui veulent toujours bien faire et souvent trop faire. Ils ont tendance à rajouter des intentions dans des plans qui n'en ont pas besoin. Et donc on a fait le tri, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on a enlevées, c'est-à-dire des intentions qu'on a enlevées, en disant bah là non, pas besoin de tourner la tête, là pas besoin de faire ce geste, etc. Et on a toujours été droit au but, c'est-à-dire que on a essayé de garder les intentions les plus fortes dans chaque plan. Et
Okay.
je pense que c'est aussi une des caractéristiques de Sirocco, c'est-à-dire que quand on regarde l'animation, ce sont des plans dans lesquels il y a en gros une intention, deux intentions maximum, pas plus. Si on regarde un film américain, par exemple, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup plus d'intentions par plan, ce qui fait que les personnages sont hyper actifs. Et ça, c'est à mon avis un défaut qui vient c'est un défaut qui vient du cartoon, en fait, où on fait bouger, 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 bouger. Et en fait, c'est pas franchement nécessaire. Par contre, le pendant de ça, c'est-à-dire que si tu enlèves des dessins, ça veut dire que tu simplifies l'animation, ça veut dire que tu rends ton film plus simple. Et pour que ça marche, et ça, c'est des questions que moi je me pose depuis longtemps et je sais par expérience que ça fonctionne. Je compense cette simplicité de l'animation et du mouvement par une mise en scène très exigeante. C'est-à-dire que la mise en scène en elle-même, elle comporte des indications déjà de
Ouais.
narration. C'est-à-dire que la façon dont tu places ta caméra, eh bien, tu vas raconter des choses et qui ne nécessitent pas forcément de l'action des personnages parce que déjà la mise en scène est narrative. Et ça c'est pas le cas dans tous les films.
C'est ça, c'est une exigence particulière à avoir sur la composition, le découpage, tous ces trucs-là qui font que ça va marcher, quoi. Et donc ça, c'est quelque part
Voilà, et
plus ta
après,
spécialité aussi, vu que tu storyboardes l'ensemble et tout. Enfin,
c'est ça.
c'est là-dessus que tu as le plus la vision, j'imagine, globale du film sur le tempo, la mise en scène, etc., quoi.
C'est ça. C'est ça. Alors moi, je suis très pointilleux. Mes animatiques, ils sont très timés, etc. C'est pour ça que j'ai du mal à travailler avec des monteurs parce que j'aime pas qu'on mette les mains dans mon travail. Mais à tort, hein, probablement, parce qu'un regard extérieur peut amener aussi d'autres choses. Mais par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'un monteur, il va pas regarder le film comme moi je le vois. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, ce sont des enchaînements de plans, des rythmes très particuliers, les enchaînements de mouvements. C'est-à-dire des raccords de mouvements sont très importants pour moi, d'un plan à l'autre, parce que c'est ça aussi qui crée la fluidité, le rythme dans un film. C'est-à-dire qu'un plan qui commence dans un plan, un mouvement qui commence dans un plan, qui se termine dans un autre, ça a l'air de rien, mais c'est ce qui fait que ton film est
Il a du
fluide.
lien, ouais.
Il a du lien, donc voilà, et tout ça, c'est des petits détails, et donc je passe beaucoup de temps, moi je règle tous les mouvements de caméra avec le timing, etc. Et donc, après, si un monteur il arrive, il dit, bon, non, on se plante, on s'en fout. Non, pas tout à fait.
Va falloir bien
C'est parfois
justifier, hein.
vrai, c'est
Ouais.
parfois pas vrai.
Ouais. Donc ça, c'est donc pour la partie animation, à quel point tu es impliqué aussi, puisque des gens justement supervisent, etc. Toi, à quel moment tu vois un plan? C'est parce que ça passe d'abord par la supervision, à quel moment toi tu le vois pour valider, etc.
Alors, il y a une étape que moi j'ai essayé d'éviter de regarder le plus possible, c'est les étapes intermédiaires. J'étais présent au tout début, ce qu'on appelle l'étape de blocking, c'est-à-dire que sur chaque intention d'animation par plan, là, je regardais tous les line tests, c'est-à-dire que savoir si l'intention était juste avant d'aller plus loin dans l'animation.
Ouais.
Et ensuite, je regardais la finalisation du dessin, surtout pour des problèmes de dessin. Par contre, l'étape intermédiaire, c'est-à-dire d'échange entre la directrice de l'animation et l'animateur sur des notions de rythme, etc., là, je suis quasiment pas intervenu parce que déjà, on n'avait pas le temps et puis ça rajoutait. Enfin, ça faisait un interlocuteur supplémentaire qui ne servait pas grand-chose. Et Suzanne savait parfaitement ce qu'il fallait faire, donc il n'y avait pas de problème. Mais donc voilà, c'était donner l'intention et après, à la fin, régler des problèmes de dessin. Je suis pas intervenu spécifiquement vraiment sur l'animation, mais par contre, je suis pas mal intervenu sur des problèmes de dessin. J'estime que je sais un petit peu dessiner, et c'est vrai que dans Sirocco, il y avait des exigences de dessin difficiles sur les mains, sur l'anatomie, sur la perspective, qui étaient quand même très difficiles, et il y avait des plans très compliqués,
Donc c'est plus sur
et
le
sur
côté
lequel,
cohérence au
ouais,
design original,
c'est
quoi.
ça. Et donc là, il fallait vraiment prendre le crayon et dire, oh non, bah, ça c'est pas vraiment un modèle. Voilà, il y a des choses comme ça où il fallait vraiment prendre le taureau par les cornes. Et puis, il y a quelques indications qui étaient très importantes. Par exemple, ça c'est un détail sur le film, mais quand même, qui a son importance. Mais un personnage comme Selma, qui est un des personnages principaux du film, qui est un oiseau, c'est un personnage qui peut pas être dessiné de face, parce qu'en fait, comme elle a une tête d'oiseau, elle a les yeux sur le côté de la tête, et donc de face, c'est
De face,
absolument
ouais.
horrible.
Bah,
Ça ressemble à rien.
c'est un peu les problèmes qu'on a très vite quand on veut designer un perso, qu'on essaie de dessiner sous tous les angles, on se rend compte qu'il y en a qui sont
Ouais.
absolument plats et qu'il faut juste jamais
Absolument.
que ça apparaisse à l'écran. Ouais. Je comprends complètement.
Voilà, et donc voilà, ça c'est aussi des astuces qu'on peut faire et que, comme encore une fois, je connais bien Suzanne, on s'est permis de faire sur le film et avec Titouan là-dessus aussi on est très raccord. C'est-à-dire que on peut très bien, c'est ce qu'on a fait sur Sirocco, dire ben voilà, ce personnage-là, on le verra jamais de face. Alors ça a quand même des sacrées conséquences parce que ça veut dire de faire une mise en scène complète d'un long métrage dans lequel un personnage n'apparaît jamais de face, c'est un vrai
Ouais.
challenge. Mais c'est tout à fait le cas dans Sirocco, c'est-à-dire que Selma, si on regarde bien, on la voit pas de face, et les dessins même, où on la voyait de face, c'est-à-dire les dessins intermédiaires quand elle tournait la tête, on enlevait le dessin, c'est-à-dire pour vraiment ne pas la voir. Et en fait, c'est possible, c'est-à-dire que c'est pour ça que tu parlais de ce qu'on appelle le model sheet, où on voit des personnages, les turns, ce qu'on appelle les turns, on voit les personnages sous tous les angles pour les faire tourner. De mon point de vue, c'est une vision qui est très américaine et très disneyenne. C'est pas une vision forcément juste de l'animation, dans le sens où le dessin permet de faire des choses qui ne sont pas en volume. On peut créer des personnages qui ne sont pas en volume et les animer parfaitement. Il n'y a aucun problème. On peut les faire tourner. Il y a plein d'exemples dans l'animation de ça. Je pense à Snoopy. Snoopy, c'est pas un personnage qui tourne. Si on
C'est vrai.
regarde, c'est un personnage qui est fait pour être dessiné de profil. Il y a le personnage de Shin-Chan qui a exactement la même problématique. C'est un logo, en fait. C'est pas un personnage qui est fait en volume. Mais en fait, les animateurs trouvent des astuces de dessin qui donnent l'illusion que ça tourne. Et en fait, c'est ça, l'animation pour moi. C'est de créer une illusion, en fait. C'est pas de créer la réalité. Ou alors, si c'est pour faire ça, autant faire de la 3D. Et c'est pour ça, d'ailleurs, à mon avis, en grande partie, que les Américains ont laissé tomber le dessin. Parce qu'effectivement, la vision disneyenne correspond exactement à la vision de la 3D, c'est-à-dire qu'en gros, on fait tourner les volumes avec des turns dans tous les sens, c'est la 3D, ok. Mais le dessin, c'est pas ça. Et donc, on peut créer des challenges comme celui de Selma en disant, bah voilà, ce personnage n'apparaîtra jamais de face
Oui.
dans le film. Un autre truc aussi, c'est que j'en parle pas mal sur Sirocco, c'est pas une blague, c'est-à-dire que autre chose qui est très difficile à faire, ce sont des personnages qui marchent, des belles marches, c'est très difficile à faire. Et moi, en plus, je trouve que souvent, les marches sont stéréotypées, c'est-à-dire que les animateurs, les animatrices ont appris à faire marcher les personnages d'une certaine manière. Et assez vite, dans un film, les personnages marchent tous de la même manière, ou en tout cas, on retrouve les codes visuels. Et donc, dans Sirocco, moi, je voulais partir dans autre chose. Et donc, une des questions, c'était de se dire, est-ce qu'on peut faire des personnages sans jambes? Et donc, Selma, on voit jamais ses jambes, puisqu'elle a des robes. Sirocco, il n'a pas de jambes. Le crocodile volant, il n'utilise pas ses jambes pour marcher, etc. Donc, en fait, il y a tout un panel de personnages comme ça qui ont des déplacements qui ne sont pas des déplacements ordinaires.
Ouais, et qui pose des questions techniques, artistiques. Enfin,
Voilà,
faut bien comprendre que
exactement.
tout doit être réfléchi et c'est un des trucs qui est le plus complexe en animation. Rien n'existe de base, il n'y a pas d'acteur et tout. Enfin, c'est tout. Ouais.
Et donc en faisant ça, ça crée aussi de la diversité à l'image parce que du coup les mouvements sont pas stéréotypés. C'est-à-dire que ça a l'air de rien, mais n'empêche que quand on enlève les jambes de Selma et qu'on voit sa robe, et ben tout d'un coup ça crée une autre illusion du mouvement, une autre impression du mouvement. Et donc voilà, on peut réfléchir à ça, c'est très important, moi je trouve, dans un film, surtout l'animation s'y prête. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir à des personnages dont les rythmes et le tempo de leur façon de parler, leur façon de bouger, leur façon de se déplacer ne sont pas stéréotypés et pas répétitifs les uns par rapport aux autres.
Donc ça, c'est pour la partie animation des personnages, etc. Et pour les décors que tu disais, des aplats assez épurés, etc. Comment ça s'est passé sur la production en elle-même pour justement réussir à avoir ce parti pris de rendu et qui fonctionne avec les mouvements de caméra, etc. À quel point ça a été complexe à faire finalement, etc.
En fait, j'ai pas sur les décors. Alors, il y a deux aspects du décor. Il y a ce qu'on appelle le layout décor. Donc là, c'est un dessin au trait. Donc, il a fallu dessiner d'abord tous les layouts de façon très précise parce que, en fait, les layouts du décor qui ont été faits ont servi pour le décor final. On n'a pas eu d'étape intermédiaire. En gros, le layout, normalement, c'est une esquisse du décor. Nous, ce qu'on a fait, c'est que le layout était le décor définitif. Donc, on a gagné une étape. C'est une manière de
Oui.
gagner du temps et de l'argent. Mais moi, je suis beaucoup intervenu, encore une fois, un peu de la même manière que sur l'animation, sur les enjeux de la place de la caméra, sur la perspective. J'ai été beaucoup derrière le layout décor pour que la caméra soit placée au bon endroit. Là, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai fait beaucoup de corrections parce qu'effectivement, bah, c'est difficile d'être dans ma tête, mais moi, la ligne horizon, elle doit être passée à un certain endroit. C'est assez pénible là-dessus. Et si elle n'est pas au bon endroit dans le cadre, tout de suite, ça me pose un gros problème. Et donc, des fois, je peux comprendre, un décorateur, il voit pas forcément où est le problème. Et moi, je le vois bien parce que un plan par rapport à un autre, ça crée du rythme encore. Et donc, il faut qu'ils se répondent, les décors. Et donc, il y a eu cette première étape sur laquelle je suis intervenu, mais on a eu à faire une super équipe qui a entièrement fait le layout à Valence. Donc, j'étais sur le lieu de la fabrication, donc il y a eu un échange très direct, et donc ça, c'était très agréable, très spontané, avec Darshan Fernando qui a supervisé le layout décor. Et ensuite, la mise en couleur, en fait, c'est quasiment une personne qui a fait. En fait, pardon, il y a deux personnes. Il y a Alexandre Rimbaud qui a fait les recherches couleurs. Alors, pour expliquer concrètement comment ça s'est passé, c'est qu'on a extrait. Alors, je sais plus. Je crois que c'est 150 plans du film qui étaient des plans références. Donc, on a pris le layout décor de ces 150 plans et Alex, il les a mis en couleur. Et donc, évidemment, moi, je passais derrière pour donner mon avis. Il y a eu des échanges entre nous deux, mais par contre, les cadences de fabrication étaient élevées, hein. Donc, Alex, il faisait trois décors par jour, hein. Et donc voilà, ça c'était sur des décors références, hein. Donc sur des décors compliqués, hein. Donc
Ouais.
il est très 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 performant. Donc il a fait ses 150 décors. Et ensuite, donc on avait comme ça, on avait une esquisse globale du film, mais il manquait les intermédiaires. En gros, c'est comme si on avait fait les phases clés du film, et il manquait les intermédiaires. Et donc on a travaillé avec Julia Petrov, qui a fait les décors, et qui n'était pas sur place. Elle était en Belgique, et elle a fait quasiment tous les décors du film toute seule, en fait. Elle était toute seule. C'est pour dire que, en fait, mon choix était quand même efficace, parce que généralement on ne peut pas faire ça sur un long métrage. Il faut des grosses équipes. Et elle a fait tout le film, en fait. Elle a été aidée un petit moment par un assistant qui l'a aidée un peu à avancer. Mais dans le film, il y a 1200 décors, et en gros, bah, voilà, elle a fait tout le reste, hein. Et comme c'était un procédé de fabrication relativement simple à contrôler, moi je pouvais très facilement prendre la main sur les décors et repasser derrière s'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. Et donc, voilà, j'étais un petit peu aussi derrière elle, mais elle a fait tout le travail.
Ok, ça c'est assez étonnant, ouais, de se dire qu'il y a si peu de personnes pour faire
Ouais,
tout ça.
fou, en fait. C'est dingue d'imaginer qu'un long métrage puisse faire avec une équipe
Bah
aussi
ouais.
réduite.
Et au niveau de
Et
l'animation, il y avait combien de personnes qui travaillaient dessus?
l'animation, c'était pas le cas. L'animation, il y avait du monde. Il y avait quatre studios. Il y avait un studio à Marseille, un studio à La Réunion, un studio à Bruxelles et un studio à Strasbourg. Et on supervisait l'ensemble depuis Valence, où j'avais une petite équipe avec Suzanne Seidel, mais aussi Guillaume Laurin qui l'a aidé. Rémi Chapman, des gens qui sont des très bons animateurs qui étaient là. Et dans chacun des studios, on avait une chef animatrice qui supervisait les équipes à l'extérieur. Et là aussi, on avait des chefs d'équipe super, Evalus Baronian, Diane Côte. C'est vraiment des gens, des personnes très, très douées en animation, et donc elles ont fait un travail extraordinaire. Donc ça, c'est le travail difficile, parce qu'elles sont à la fois coach et puis
Bah c'est ça,
dessinatrices.
sur le terrain et tout, ouais. Et un point que je voudrais aussi aborder, c'est tout le côté son en général. Donc à la fois les voix, les bruitages, la musique. Comment ça s'est passé ça? Parce que j'imagine aussi que tu diriges les comédiens, comédiennes pour faire les voix de départ, enfin au départ. Donc il y a tout ce truc-là. Comment est-ce que tu as pensé le son du film en fait globalement?
Alors le son, il y a plusieurs aspects, parce que dans le son, il y a trois gros pans du son. Le premier, c'est les voix. Le deuxième, ce sont les bruitages et les ambiances sonores. Et le dernier, c'est la musique. Donc c'est l'ensemble du son. Alors le premier, les voix. Il y a une chose importante qu'on a fait, c'est que pour l'animatique, en fait, on a enregistré des voix témoins avec des comédiens professionnels. Et ça a beaucoup joué pour le film, parce qu'on a enregistré deux personnes, une femme et un homme, qui ont fait à eux deux toutes les voix du film, en fait. Ils faisaient tous les personnages. Donc en une journée, on a enregistré toutes les voix avec ces deux personnes. Donc il y a moins de voix masculines, mais malgré tout, elles étaient importantes. Et les deux comédiens ont donné des intentions qui étaient très fortes, moi, je trouve, et ils ont été super. Parce que ils ont, dès le départ, donné une couleur aux voix, malgré le fait qu'ils faisaient tous les personnages. Et notamment Marine Berthiaud, qui a fait les voix féminines, parce qu'il y a beaucoup de voix féminines, donc elle faisait toutes les filles, là. Alors là, pour le coup, elle faisait tout le monde. Et elle interprétait tous les personnages de façon différente. Et donc c'était incroyable de voir qu'elle avait une palette d'expression aussi grande. Et donc ça a beaucoup, beaucoup joué, parce que à partir de là, moi, j'avais un matériau qui était très riche et qui était très intéressant. Et donc moi, je me suis servi de ces enregistrements de voix pour faire l'animatique. Alors évidemment, je les ai retaillés, je les ai redécoupés, je les ai dynamisés, je les ai triturés dans tous les sens, ces sons-là. Mais n'empêche que j'avais quand même cette base qui restait jusqu'à la fin, qui donnait une intention, à mon avis, très précise de ce que j'avais en tête. Et donc, quand on a enregistré les voix définitives, les comédiens, on leur projetait l'animatique avec un sous-titre. Et ils pouvaient absolument voir les intentions des personnages et puis entendre, si jamais ils avaient du mal, entendre les intentions qui avaient été jouées dès le départ.
Oui,
Donc ça a beaucoup
ça d'ailleurs, je ne
servi.
sais pas à quel point c'est courant ou pas, parce que les voix s'enregistrent avant l'animation, etc. Mais là, ils étaient presque dans une condition de doublage, alors que c'était les voix avant animation.
Absolument.
C'est ça qui est particulier, je pense.
Absolument. En fait, on a même, c'est tout à fait ce que tu dis. En fait, on a même choisi des comédiens qui étaient des spécialistes. Enfin, c'était des doubleurs professionnels. En fait, c'était. On n'a pas. Moi, j'ai fait le choix de ne pas travailler avec des comédiens connus et je voulais travailler avec des gens qui font du doublage. Parce que dans un court-métrage précédent, en fait, j'avais fait l'expérience de ce travail-là et j'ai découvert que c'est des gens qui sont extrêmement précis. Alors ça, pour moi, c'est fabuleux parce qu'ils peuvent être d'une précision chirurgicale. Dans une phrase, tu leur dis, bah, ce mot-là, moi, je trouve qu'il n'est pas juste. Et ils te refont la phrase avec le mot juste. Et alors là, c'est tellement merveilleux. C'est pas du tout un travail aléatoire. C'est un travail qui est extrêmement précis et dans lequel on peut amener une justesse et un tempo que moi, je trouve vraiment génial. Et donc, du coup, on peut vraiment travailler en profondeur chaque dialogue. Et comme il y avait déjà toute la base de l'animatique, etc., il fallait aussi conserver le tempo. On ne pouvait pas faire des dialogues qui débordent, parce que sinon le film aurait été plus long. Et donc, ils se sont, c'est exactement ce que tu dis, ils ont fait du doublage en fait sur l'animatique, quoi. Et comme c'est des grands comédiens, ils ont aussi interprété, c'est-à-dire qu'ils ont aussi, à des moments, apporté quelque chose qui n'existait pas au départ.
Ouais. Et
Et.
donc toi à ce moment-là, tu dois aussi diriger, on va plus vers là, etc., tout le côté
Absolument.
intention et tout, qui est une
Absolument.
partie vraiment importante, puisqu'une fois que tu as fait ces voix-là, derrière, les intentions de l'anime seront aussi portées par ça et
Absolument.
tout ça, quoi.
Absolument. Et alors j'ai été très aidé par Marie Bureau, qui est la directrice du casting, qui a déjà fait un super casting, qui a déjà, en fait, en faisant le casting, il a déjà résolu la moitié des problèmes.
Ouais.
Et puis qui est une femme qui est très active sur le plateau et donc qui sait diriger un comédien, une comédienne, et donc elle est en plus qu'elle connaît très souvent des relations d'amitié avec tous ces gens. Et donc pour moi c'était super agréable. En fait ça s'est très très bien passé, les enregistrements de voix, on a été relativement vite, hein, en 15 jours, même pas, en 10 jours en fait, à peine 10 jours, on avait toutes les voix du film définitives et de grande qualité, donc ça c'était très très bien. Alors ça, c'est la partie voix. La partie sonore, création sonore, design sonore, là, j'ai une chance incroyable. En fait, je cherchais quelqu'un, j'avais repéré quelqu'un qui s'appelle Gurval Coïgalas, et il l'a su avant que je l'appelle. Et il a regardé le teaser sur Internet, et c'est lui qui m'a appelé en disant, je veux absolument faire ce film. Et c'était merveilleux parce que je me suis retrouvé dans une situation royale, c'est-à-dire que la personne avec qui j'avais envie de travailler m'a appelé en disant je veux travailler avec toi. Donc c'était super agréable. Et il a fait un travail formidable. C'était un énorme boulot, hein, de création sonore. Ça a l'air de rien, mais c'est un film dans lequel le son est très très présent
Bah là, encore une fois, le
et un
côté
trou
vent, il y a
absolument.
forcément, ça implique des
Voilà,
choses
c'est
déjà
ça.
rien qu'en se disant ça, quoi.
Un très gros travail sur la création sonore, avec ce qu'il appelle, lui, des sons. Alors, comment ça, il appelle ça? J'ai oublié le nom. En fait, il a une façon de travailler qui est particulière, c'est qu'il cherche des sons signatures. Voilà. Pour te donner l'exemple parfait du son signature, c'est le sabre laser dans Star Wars. C'est-à-dire que le son signature, c'est ça. C'est-à-dire c'est un bruit dans lequel, quand tu vas l'entendre, tu vas savoir exactement ce que ça veut dire. Par contre, le sabre laser, si tu l'écoutes, c'est un son abstrait, c'est un son qui ne veut rien dire. Mais par contre, une fois que tu l'as vu et que tu l'as entendu une fois dans le
C'est
film,
gravé.
c'est gravé dans ta mémoire. Ça, c'est un son signature. Et donc, il a fait ce travail sur les personnages principaux. Et dans les personnages principaux, par exemple, il y a le Deltaplane, qui est un personnage sonore, puisqu'il fallait lui trouver une identité sonore. Qui fonctionne et qui soit pas la même que celle de Sirocco, qui soit pas la même que celle de la tempête. Donc il a isolé et il a fait des sons signatures pour tous ces personnages-là. Et une fois qu'il avait fait ce travail, qui était quand même un gros travail de création, là, après ça a été assez rapide à installer dans le film parce que il les a posés. Une fois qu'il avait trouvé la couleur, la manière de faire, il les a posés un peu partout dans le film au bon endroit. Mais ça, c'était un énorme boulot. Hein. Et donc, il a eu un rôle énorme sur toute cette partie son. On avait une toute petite partie bruitage classique, mais très peu, en fait, sur lequel on a fait des enregistrements de pas, des choses comme ça. Mais c'est un film avec un univers fantastique, donc il avait beaucoup, il
Ouais,
avait
beaucoup de choses
quasiment
à
tout
créer de
fait.
zéro.
Ouais. Moi, j'avais aussi mis quelques indications au moment de l'animatique, notamment sur des bruitages bizarres d'animaux, les poissons qui volent et tout comme ça. J'avais mis des intentions.
Ouais.
Et il y en a certaines qui sont restées. Il y a des choses qu'il a retravaillées. Enfin, il les a toutes reprises, mais en tout cas, il y a des intentions qu'il a gardées, notamment sur des animaux bizarres.
Donc c'est par exemple là j'imagine que c'est un mélange de tel et tel animaux ou des trucs comme ça au niveau du
C'est
son.
ça. C'est ça, ouais. Ou alors même, des fois, c'est un seul animal. Je sais que j'ai trouvé par exemple des bruits de manchots qui étaient incroyables.
Ouais.
Et donc il en a retrouvé d'autres et qu'il a remixé un peu différemment, mais en gros, il a parfois utilisé ce que j'avais fait, pas toujours. Et il y a une autre personne très importante dans le son, c'est le mixeur, c'est Régis Diebold qui a fait le mixage du film et qui a aussi aidé Gerval à certains moments, qui a eu aussi un rôle très important. Et le mixage est évidemment dans un film comme celui-ci est aussi fondamental. C'est difficile à expliquer à l'audio parce que c'est quelque chose de enfin c'est un truc compliqué. C'est très technique, c'est-à-dire que tu te retrouves devant un tableau dans lequel il y a plein de manettes dans tous les sens et tu as des milliers de sons qui sont balancés à l'écran et il faut les harmoniser les uns par rapport aux autres pour que tout soit le plus lisible possible, que les dialogues ne mange pas les sons, que les sons ne mangent pas la musique, etc. Donc c'est un travail d'équilibrage et là vraiment il faut quelqu'un qui ait une oreille assez sensible et puis surtout qui ait une vision du film qui soit la même que la tienne parce qu'avec un mixage tu peux flinguer ton film. Hein.
Ouais, je pense qu'on a vu assez de films où on n'entend pas les voix pendant les
Ouais,
trucs. Ouais.
ouais. Donc là gros travail d'équilibriste hein, et donc il a eu un super. Voilà, c'était une belle équipe là. On s'est retrouvé à quatre à faire le mixage avec Titouan, Gurval et Régis. Et c'était un chouette moment où vraiment chacun a pu discuter. Et on était loin de ce qui se passe habituellement, où des fois, au moment du mixage, tout le monde est rush. Personne ne... enfin, tu te retrouves avec un mixeur qui ne connaît pas forcément ton projet. Et donc, les
Ouais.
tensions sont très fortes.
Et encore ce truc
Là, c'était pas
de
le...
mixer de façon classique, si jamais il doit
Ouais.
juste le faire, ce sera un peu peut-être cliché.
C'est ça. Et donc il avait fait un pré-mixage qui était déjà très sophistiqué, sur lequel on avait pu échanger à deux. Et donc là, il y a eu vraiment un échange très artistique au moment du mixage qui était très très intéressant. Et puis la dernière personne, c'est Pablo Picot, qui a évidemment un rôle majeur dans le film, puisque c'est le compositeur de la musique. Et là, dès le départ, on était d'accord pour tous les deux pour faire une musique orchestrale.
Oui.
Mais la musique orchestrale, comme tu peux imaginer, c'est un problème de coût parce que
Y a
ça
du
coûte
monde,
cher.
oui.
Et il y a du monde. Donc là, on a plus de 40 musiciens, hein, c'est énorme. Alors, des chœurs, etc. Donc là, à la fois l'écriture, l'enregistrement, tout ça est très compliqué. Et Pablo, il a fait un super boulot. Il a été très rapide, très efficace. Et puis, on a été très, très raccord tous les deux, quoi, pour la musique, il a aussi pu travailler très en amont sur certains thèmes.
Oui, c'est ce que j'avais demandé. Est-ce que
Ça
il
nous a...
travaille déjà sur l'animatique et ensuite ça continue à se travailler dans la post-production? Ça se goupille comment en tout cas la musique sur ce film-là, au niveau des délais,
Ouais.
de la superposition des étapes.
C'est ça, il a travaillé dès l'animatique, ouais. Pour justement poser déjà des ambiances. Moi, j'avais mis des musiques témoins. Bon, c'est toujours très compliqué cette affaire parce que les
C'est un peu
musiques témoins
risqué.
sont indispensables parce que tu peux pas, notamment sur les scènes lentes, sur les scènes rapides en fait, d'une certaine manière presque tu pourrais faire un animatique sans son. Parce que les scènes rapides, c'est le visuel qui mène la danse. Dans les scènes lentes, c'est pas le cas. C'est le son qui mène la danse. Et donc, on peut pas construire un animatique. En tout cas, moi, je suis incapable de construire un animatique sur des scènes lentes dans lesquelles il n'y a pas de son.
Oui, ça
Parce
impose le
que
rythme de la scène,
ce
quoi.
que tu vois, bah oui, parce que si tu veux, ce que tu vois à l'écran, si tu coupes le son, c'est hyper chiant, il ne se passe rien. Mais dès que tu mets une musique, tout d'un coup, ça devient merveilleux, c'est splendide parce que la musique a toute sa place, etc. Et donc, il faut parfois utiliser des musiques témoins. Donc, moi, j'avais pioché dans des grands compositeurs. Il y avait beaucoup de John Williams,
Oui.
du Nino Rota, enfin voilà, des trucs qui sont merveilleux, enfin, des grands, grands compositeurs. Mais le problème, une fois que tu as fait ça, c'est qu'il y a parfois là-dedans des grands morceaux de musique, quoi. Et donc, de s'aligner sur ces morceaux, c'est
Bah c'est ça, et
parfois un
de
peu
pas
compliqué.
être trop non plus attaché à la scène avec cette musique, parce qu'au final ce sera pas celle-ci. Enfin, il y a ce
Voilà.
truc un peu de recul à avoir aussi, j'imagine, dessus.
C'est ça. Et donc, voilà, Pablo, il a su intelligemment se créer des thèmes originaux, forts, qui collaient avec l'image. Moi, je pense sincèrement que c'était Pablo est le compositeur qu'il fallait pour ce film. Donc, je suis très, très content qu'on ait pu travailler ensemble. Après, voilà. Évidemment, comme toute histoire, c'est pas forcément linéaire, mais le résultat enfin, moi, j'imagine pas une autre musique pour Sirocco que celle que Pablo a écrite.
Et juste peut-être pour boucler un petit peu, le côté justement là, au moment où on parle, on est à peu près 2 mois avant que le film sorte. Comment ça se passe alors à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe à la fin de voilà, le film est fini? Et de ton côté à toi, qu'est-ce qu'il y a à faire en fait ensuite jusqu'à la sortie du film?
Alors moi, là, sur Sirocco, je ne l'ai pas toujours fait, même assez peu finalement, sur mes courts-métrages. J'ai peu voyagé en accompagnant mes films. Moi, j'aime bien travailler, donc je fais des films. Mais sur Sirocco, bon, voilà, c'est une longue aventure, ça a été difficile. Et là, pour le coup, j'ai vraiment envie de rencontrer le public. Donc, je me suis donné jusqu'au moment de la sortie pour accompagner le film le plus possible, probablement un peu après aussi, pour essayer d'être présent, notamment auprès des exploitants qui ont un rôle hyper important pour la diffusion, nous rendre vraiment disponible et puis rencontrer, discuter, voir qu'est-ce que tout ça a créé dans la tête des gens, comment c'est perçu. Et donc là, j'accompagne, je fais pas mal d'avant-premières jusqu'à Noël et j'accompagne le film jusqu'à sa sortie le 13 décembre. Ça, c'est mon objectif. Donc voilà, ça m'occupe pas mal, ça me prend pas mal de temps. Et entre-temps, voilà, il y a des choses encore à finir, des affiches internationales, des trucs comme ça,
Oui, c'est ça, il y a
des
encore des trucs
goodies.
à faire parce que c'est pas une fois que le film est fini, bah, il faut le distribuer, le vendre quelque part, etc. Enfin,
Absolument.
et c'est quand même une grosse partie aussi de qui va pouvoir le voir, quoi. Donc il y a des enjeux là-dessus.
Mais ça, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'en gros, il faut que toute la chaîne de la fabrication fonctionne, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ton film, ben c'est très bien, tu as fait ton film, mais il faut que l'objectif, c'est que le public le voie, sinon ça n'a pas de sens. Et en fait, pour que le public le voie, il y a le producteur, évidemment, qui a un rôle important, mais le distributeur est très important. Le distributeur, c'est la personne qui va prendre ton film et qui va le donner aux exploitants. Et les exploitants, qui sont eux les salles, en fait, ce sont les salles qui gèrent directement et qui ont la relation directement avec le public. Et donc, en fait, dans un film, il faut que cette chaîne-là fonctionne correctement. C'est-à-dire qu'il faut que le distributeur ait choisi un film qu'il aime, qu'il a envie de di distribuer, qui choisit de le faire dans des conditions qui sont en lien avec ce qu'on raconte, c'est-à-dire que s'il se trompe de cible, de public, etc., c'est pas bon du tout pour un film. Donc il faut déjà que le distributeur comprenne bien le film que tu as fait, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ensuite, il faut aussi que les exploitants prennent ton film et le montrent, aient envie de le montrer. Donc il faut que la relation entre le distributeur et les exploitants soit bonne, soit cohérente, là aussi, elle soit lisible. Et toute cette chaîne-là est fondamentale pour que, entre ce que moi j'ai imaginé, le film que j'ai fait, et ensuite que le public puisse y avoir accès, fonctionne. C'est-à-dire que tout ça doit être bien huilé, quoi. Et ça a l'air de rien, mais c'est quand même un gros travail.
Oui, c'est
Et
clair.
chacun a un rôle très important, et donc il faut être très respectueux, très à l'écoute. On peut pas marcher sur les plates-bandes des autres. Voilà. Donc moi j'essaye dans la mesure de mes moyens d'être présent pour toutes ces personnes qui vont rendre le film visible. Et on a la chance avec Sirocco d'avoir des interlocuteurs et sont vraiment, qui jouent le jeu, tout le monde joue le jeu. C'est très fluide, là, ça fonctionne très très bien. Je suis très content, on a un distributeur Haut-et-Court qui est encore comme Pablo, qui est parfait pour ce film. Donc voilà, là, moi hier, j'étais dans des salles à Grenoble, on est très bien accueillis, là, le Méliès, super bien accueilli. C'est pas ça qui fait le succès d'un film, mais par contre, ça y contribue largement.
Oui.
Voilà.
Et peut-être dernière question, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce que c'est l'expérience justement personnelle de faire un film, le côté aussi avoir tout le temps la tête dedans, etc. Tu disais que tu aimes bien travailler, donc j'imagine qu'il y a peut-être un côté aussi être tout le temps dedans. Est-ce que tu arrives comment dire, à ne pas être trop happé par ça, ou alors est-ce que ça te dérange pas et tout ça? Vraiment le côté lien au travail quand on fait un film. Qui doit se faire dans un temps court et tout, forcément une pression, un stress particulier, etc.
Ben, je crois que en fait, moi, j'avais pas imaginé à quel point ça serait prenant.
Oui.
J'avais travaillé sur deux longs métrages auparavant. Peut-être que c'est parce que j'étais seul aux manettes et contrairement aux deux premiers. Mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que je pense avoir fait le film que j'avais vraiment envie de faire, donc d'avoir posé une certaine forme d'exigence. Et en plus dans un contexte relativement tendu et difficile, et donc là j'ai été esclave de mon propre projet. C'est-à-dire que c'est pas, on est à la fois, enfin, faire un film, on est à la fois content de le faire, mais c'est aussi parfois une souffrance vraiment. C'est-à-dire que c'est très difficile. Il y a des moments où il faut travailler beaucoup. J'ai jamais autant dessiné de ma vie que sur ce film. Alors j'adore dessiner, ça tombe bien, mais n'empêche qu'il y a des moments de découragement. On se dit, mais est-ce qu'on va y arriver tout simplement? Moi, j'avais vraiment la hantise pendant longtemps, pendant la fabrication, de me dire, mais en fait, on peut pas finir ce film dans les temps. C'est pas possible, on n'arrivera jamais. Donc il faut travailler d'arrache-pied, faut être présent, et puis il faut faire les bons choix. C'est toujours le même problème. La réalisation,
À la fin,
c'est
ça va
ça.
tomber dessus si c'est pas bon, quoi.
C'est faire le bon choix au bon moment. C'est-à-dire que, et ça a l'air de rien, mais tu peux, sur un mauvais choix au départ, cramer toutes tes cartouches et planter ton film parce que tu n'as pas fait le bon choix. Et donc, y a ce truc quand même d'avoir tout le temps très attentif sur ce que tu dois dire, comment le transmettre aux autres. Bah, ça a l'air de rien, mais par exemple, quand tu dis à un animateur, bah non, là, il faut que tu enlèves des dessins parce qu'il y en a trop, et parce que ça correspond pas au film, et parce que ça va nous coûter trop cher. Faut être quand même droit dans ses bottes, parce que en tant que réalisateur, tu es vachement tenté par l'idée de dire, bah non, fais-moi plus de dessins, ça va être super. Et ben non, là, il faut pas faire ça. C'est-à-dire qu'il faut écouter le producteur qui dit, ben non, écoute mon gars, si tu veux finir ton film, il faut faire des efforts. Et puis il faut écouter aussi l'animateur qui dit, ben moi j'ai besoin de faire mon métier, donc qu'est-ce que tu me donnes comme information pour que je puisse le faire correctement? Et donc c'est un ensemble comme ça de choix qui font que, eh ben, tu peux arriver à bon port ou pas. Et il y a cette tension qui est permanente pendant toute la fabrication qui est difficile. Après, j'imagine que quand tu l'as fait une fois, la deuxième fois, ça doit être un peu différent.
Peut-être,
C'est
je sais
comme
pas. Ou alors c'est un autre chantier
les...
tout aussi difficile, peut-être aussi.
Non, mais comme les enfants, c'est-à-dire que j'imagine que quand on est au troisième, eh ben, s'il est malade, le troisième, tu stresses
Tu sais
moins
gérer,
que
peut-être, ouais.
quand c'est le premier. Mais c'est vrai que cette aventure m'a, à bien des moments, m'a dépassé totalement. Et j'étais quand même en état de stress et d'anxiété, quoi. Et avec en plus la difficulté de montrer le cap, c'est-à-dire de dire à son équipe, vous inquiétez pas, ça va
Ouais,
bien se
c'est ça.
passer.
De faire d'être le capitaine du truc sans trop savoir si vraiment ça va marcher ou pas, mais en espérant que ça le fasse et en motivant et tout.
C'est
C'est
exactement
un gros
ça.
travail.
Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut donner le cap en étant toi-même parfois pas tout à fait sûr du cap que tu donnes. Donc, c'est parfois difficile, mais c'est un jeu et voilà, je pense que moi, l'avantage que je peux avoir aussi, c'est que j'ai une certaine expérience qui fait que il y a des moments, je sais en faisant certains choix qui vont être payants et que ça va être efficace. Mais on ne fait pas forcément les bons choix pour tout. Et puis, ça reste aussi une relation humaine très forte. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'une aventure de production, de dessin, de machin, d'argent, c'est aussi une aventure humaine. Donc, de créer une relation agréable avec ton équipe, de gens qui vont te soutenir, c'est pas super évident. C'est jamais gagné d'avance, en tout cas. Moi, j'ai eu la chance d'être entouré de personnes avec qui ça s'est très très bien passé. Et c'est génial, en fait. Je veux dire, heureusement que j'ai pu travailler dans ces conditions, parce que si tu dois gérer ton stress, plus la boule au ventre, parce que tu sais pas discuter avec les gens qui t'entourent, alors
Oui.
là, au secours.
Écoute, moi je pense que j'ai fait le tour de toutes mes questions. Je sais pas s'il y a une dernière chose que tu voulais aborder ou quoi sur un thème ou un autre, qu'on a peut-être occulté. J'ai l'impression qu'on a fait un tour assez global.
Ouais, non, mais je trouve aussi que c'est assez global. On a fait le tour, je crois.
Bah super, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et puis d'avoir raconté tout ça. J'espère que ça motivera ceux et celles qui regardent et qui se demandent un peu comment ça se passe pour faire un film.
Oui, moi aussi, j'espère déjà que nos auditeurs iront voir le film et que ça leur donnera envie, parce que c'est quand même ça l'objectif, c'est qu'un film fasse rêver et que ça donne envie d'en faire soi-même. Enfin, pour moi, c'est moi, ma grande motivation, en fait, dans ce métier, c'est de voir les autres, hein, quand même.
C'est ça, ouais.